Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité d'Okapi Service.
Okapi. Danger d'exercer des activités dans les aires protégées en RDC et plusieurs parcs et aires protégées sont en danger. D'après les experts, plusieurs activités pratiquées dans ces aires protégées constituent une menace pour l'environnement. C'est le cas, entre autres, des travaux des champs, de l'exploitation des mines et pétrole. Autre inconvénient, ces activités mettent en danger la vie des populations riveraines, les animaux et leurs habitants. On va en savoir plus avant un éclairage par rapport à ces sujets avec notre invité Raymond Lumbrinamo, qui est directeur national de WWF, qui est le Fonds mondial pour la nature. Nous rappelons le numéro pour participer à cette émission. Appelez-nous 081 890 63 94 ou bien faites-nous un SMS au 081 711 50 01. Voilà, monsieur Raymond Lumbrinamo, on parle du danger d'exercer des activités dans les aires protégées. Enfin, d'entrer dans les vifs du sujet, et qu'est-ce qu'on entend par une aire protégée?
Justement, une aire protégée, comme le son nom l'indique, c'est une zone qui est protégée.
Oui.
Pour laquelle certaines activités sont autorisées, d'autres ne le sont pas. Quand on protège une aire, on a quelque part quelque chose qui est très intéressant dans cette aire, et alors on décide que certaines activités ne peuvent pas y être autorisées. C'est ça la raison d'être d'une aire protégée.
Donc il y a incompatibilité d'exercer des activités dans ces aires protégées. Oui. On peut avoir une idée sur ces genres d'activités qui peuvent être exercées dans ces aires protégées?
Dans la plupart des zones que nous avons, des zones protégées que nous avons des habitats que nous estimons pristines, c'est-à-dire de première qualité, non perturbés par l'utilisation humaine. Et ces habitats contiennent une flore et une faune qui doit être protégée. Et donc toute activité autre que celle qui pourrait endommager l'intégrité de cet habitat doit être prohibée. L'agriculture, par exemple, dans certaines zones, ne peut pas être autorisée. La chasse ne peut pas y être autorisée. L'exploitation minière ne devrait pas y être autorisée. Les lois de la République les reconnaissent comme telles.
Vous avez cité de l'agriculture, de l'exploitation minière et puis de la chasse. Alors, les conséquences par rapport à tout ça, lorsque les gens ne comprennent pas de cette oreille, ils vont dans des aires protégées faire ces genres d'activités, quelles sont les conséquences?
Les conséquences sont que justement cette aire protégée n'est plus une aire protégée en ce moment-là. Il faut décider de la déclasser peut-être, l'enlever de la liste des aires protégées parce qu'elle ne répond plus aux critères d'une aire protégée. C'est pour cela d'ailleurs qu'il y a tout un programme, tout un projet que le WWF a mis en place avec l'aide de l'ICCN.
Oui.
Pour regarder les réseaux des aires protégées du Congo, en faire une évaluation, décider de quelle amélioration il faut apporter à quelle aire protégée. Et est-ce qu'il y a des aires protégées qui n'ont d'aires protégées que le nom? Est-ce qu'il faut les garder? Est-ce qu'il faut les soustraire de la liste des aires protégées? Ça, c'est ce qui est en train de se faire en ce moment-ci avec l'ICCN.
Alors, qui est censé protéger ces aires? Parce que bon, quand on va, par exemple, faire de l'exploitation minière, on suppose que les gens qui font de l'exploitation minière ne sont pas venus comme ça. Ils ont su contacter les instances qu'il faut pour faire cette exploitation minière. Est-ce qu'on le fait parce qu'on veut simplement ne pas protéger l'environnement? On pense à des incidences pécuniaires ou bien comment? Parce qu'il s'agit des aires protégées.
Y a des aires protégées où les limites ne sont pas tout à fait claires.
C'est
déjà un problème.
Oui.
D'autre part, il y a une question simplement d'intérêt économique. Il y a des gens qui veulent avoir de l'argent rapidement et tout de suite. Donc, quand ils découvrent un filon de je ne sais quel minerai dans je ne sais quelle aire protégée, ils y vont. Ils obtiennent les papiers nécessaires et ils y vont. Le problème le plus grand, en fait, c'est quoi? C'est que nous n'avons pas au Congo un plan directeur d'aménagement du territoire.
Et ça, il faut absolument l'avoir.
Il faut qu'on l'ait, parce que sinon, on a des chevauchements d'utilisation des terres qui ne correspondent pas. Vous aurez des carrés miniers qui sont superposés sur des aires protégées, des carrés miniers qui chevauchent, qui chevauchent de concessions agricoles. Et tous ces usages-là ne sont pas nécessairement compatibles. Donc voilà, ce sont ces genres de choses qu'il faudrait éviter. Mais pour qu'on y arrive, il faut qu'on ait un plan directeur d'aménagement du territoire.
Vous avez soulevé un problème très important, c'est par rapport à la délimitation des aires protégées. C'est un effort qui est vraiment fait dans ce sens pour aider, en tout cas parlons du cas de paysans, pour savoir, il faut s'arrêter. Un effort qui est fait, par exemple au niveau de WWF, il y a un effort qui est fait dans ce sens, du moins pour certaines parties du pays.
Ah oui, l'ICCN s'appuie sur le WWF et d'autres organisations du même genre, qui essaye d'aider l'ICCN à délimiter les parcs, notamment au Virunga, à Kahuzi-Biega. Nous, on est à Kahuzi-Biega, justement, dans ce sens-là. Nous sommes en train de travailler sur la délimitation du parc de Kahuzi-Biega, oui. Avec l'accompagnement de l'ICCN.
Ah, vous êtes déjà à Kahuzi-Biega, et ici, il faut parler de Kahuzi-Biega. Qu'est-ce qui s'est passé exactement dans les coins où vous êtes, avant de vous rendre compte que non, il faut rapidement faire quelque chose autrement, ça va poser problème.
Mais il se pose très souvent un problème de conflit des terres entre l'ICCN et la population rurale, qui ne sait pas où s'arrêter, où exactement s'arrêtent les parcs, où commencent les parcs, et... Quand ils y vont, ils se retrouvent en infraction par rapport à la loi parce qu'ils ont empiété les limites du parc, mais ils ne le savaient pas. Et donc il faut matérialiser ces limites-là. Et c'est ce qui s'est fait au parc national de Kahuzi-Biega pour l'instant. Kahuzi-Biega, malheureusement aussi, comme vous le savez, à l'intérieur du parc, il y a beaucoup, beaucoup de minerais.
Oui.
Et il y a beaucoup de gens qui sont dans le parc entre des fesses qu'ils font d'habitude, c'est-à-dire la prospection minière artisanale, mais quand même perturbateur.
Et parlons un peu de Kahuzi-Biega par rapport surtout à ce qui concerne les activités pour des paysans. Est-ce qu'il y a de campagnes de sensibilisation pour faire comprendre à ces agriculteurs? Parce que de leur part, ils vont se dire, non, on doit bien vivre. Comment nous avons la forêt en face de nous? Vous nous dites qu'il faut bien protéger. Est-ce qu'il y a des campagnes de sensibilisation pour qu'ils puissent s'imprégner de l'importance de protéger ces milieux-là?
Kahuzi-Biega, c'est le parc que j'estime être suffisamment bien outillé en termes de personnel technique.
Oui.
Ils ont un très bon technicien à la tête qui est membre de l'ICCN, qui fait très bien son travail. Et c'est l'un des fleurons, en tout cas, du réseau des aires protégées du Congo. Comme vous savez, c'est les gorilles de montagne, les gorilles de plaine,
oui.
Se trouvent à Kahuzi-Biega et c'est l'endroit où les gens vont les voir. Les populations sont sensibilisées. Il n'est pas facile de sensibiliser tout l'ensemble de populations parce que, comme vous savez, c'est quand même une vaste étendue,
oui.
Et les populations sont très nombreuses aux alentours du parc et la demande de terre n'est pas moindre. La densité de population aux environs de ces parcs-là est très, très élevée. Et donc, les problèmes de terre se posent avec beaucoup d'acuité. Il va falloir qu'on intervienne dans ce sens que les populations sachent exactement où se situent leurs limites, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire, où ils peuvent aller, où ils ne peuvent pas aller. Et peut-être penser à intensifier l'agriculture, on va avoir une agriculture itinérante sur brûlis qui consomme la ressource terre,
oui.
Plutôt des gens qui sont stables, qui ont une productivité beaucoup plus élevée et donc se déplacent moins.
Parce que ça, c'est déjà une piste de solution, hein,
oui.
Parce que c'est ça le grave problème pour, en tout cas, des paysans, parce que vous l'avez dit, bien des fois, il y a des conflits par rapport à ça, la lutte pour la survie.
Oui.
Quels sont les dangers d'exercer des activités dans les aires protégées? C'est le sujet en cours. Dans ce numéro du magazine Okapi Service, on en parle avec Raymond Lumbuinamo, qui est directeur national de WWF, qui est le Fonds mondial pour la nature. Vous voulez intervenir par rapport à ce sujet? Vous habitez dans des coins ou il y a des aires protégées, vous voulez avoir un éclairage par rapport au danger d'exercer certaines activités dans ces aires protégées, appelez-nous 081-890-63-94 ou bien vous nous faites un SMS au 081-711-50-01.
c'est parce que Radio Capéine et le Congo que vous êtes concernés par cette émission. Habitants de toutes les provinces, Parole aux auditeurs est votre émission. Chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi de 10h à 11h, vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter le soir à 20h et sur internet, radiocapi.net.
Danger d'exercer des activités dans les aires protégées. Vous voulez intervenir? On vous rappelle le numéro, c'est le 081 890 63 94. Voilà, monsieur Raymond Louboinamo, on aborde ce sujet avec vous. Vous avez parlé des efforts qui ont été faits au niveau des Kaous et Biega où vous êtes. Mais parlons des conséquences, parce que c'est très très important d'insister sur les conséquences d'exercer des activités dans ces aires protégées. Pour ce qui est, par exemple, de l'exploitation minière ou de l'exploitation du pétrole, il y a aussi de graves conséquences que cela.
Ça dépend où vous exercez vos activités.
Oui.
Parce que tout d'abord, il faut qu'on mette les choses au point.
Oui.
La première chose, c'est que la loi congolaise reconnaît qu'il ne faut pas exercer d'autres activités que celles pour lesquelles les aires protégées ont été établies. Ça, c'est une chose. Si vous prenez une aire protégée comme... Et il faut encore que je vous dise que les aires protégées sont catégorisées. Catégorie 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 6 par l'UICN, l'Union mondiale pour la conservation de la nature.
Et catégorisées en fonction de leur importance ou bien?
En fonction de restrictions.
Ah, d'accord.
Quelles sont les restrictions? Il y a des réserves, il y a des parcs. Donc il y a une sorte de catégorisation dont le sujet est tellement vaste qu'on ne peut pas l'aborder. Mais chacun de parcs, chacune de réserves ou d'aires protégées a sa catégorie. Et souvent, on a dans une réserve des zones. Il y a une zone centrale qu'on appelle à conservation intégrale. Donc on n'y touche pas.
Absolument pas.
Absolument pas.
Oui.
Il y a des zones à extraction. Il y a des zones tampons où l'on autorise certaines activités. Certaines activités, par exemple, il y a dans certaines zones tampons, on a même des champs agricoles. Mais lorsqu'on parle de la zone centrale, on n'y touche pas. C'est intégralement protégé.
Est-ce que par rapport à la zone centrale où on n'y touche pas, il y a des cas comme ça où il y a des zones qui malheureusement, vous dites il faut une conservation centrale, mais il y a des activités qui sont exercées.
Oui, par exemple, si nous prenons ici à côté de nous, dans la réserve de la biosphère de Louki, par exemple, la zone centrale est attaquée par des gens qui viennent faire l'extraction du bois. Comment voulez-vous extraire du bois dans une centrale, dans une zone centrale d'une aire protégée? Et avec ça, vous nous brandissez un permis de coupe qui vous a été octroyé, enfin, je ne sais quelle autorité, mais vous venez, vous dites, je dois couper, et vous commencez à couper, on confisque votre matériel, vous plaignez, mais écoutez, nous, on a reçu mandat de protéger, c'est quoi? Et vous venez nous dire, vous pouvez le faire, non, on vous dit non, vous ne pouvez pas le faire.
Voilà, donc il faut, dans ces secteurs-là aussi, docteur des permis, il faut qu'il y ait beaucoup,
beaucoup
d'ordres. Alors, on a déjà des auditeurs en ligne, il y a Ogi Bendelo qui nous appelle de Kikwit, dans la province du Bandundu. Jean-Pierre, lui, est à Bounia, en Ituri, en province orientale. Ogi Bendelo, bonjour.
Bonjour, ma femme Ngombala, je salue notre invité. Je salue aussi tous les auditeurs qui sont présentement branchés. Merci de m'avoir accordé la parole.
Allez-y, on vous écoute.
Oui, Marcel, j'ai bien suivi notre invité et j'ai voulu lui poser une seule question. Il a cité l'agriculture, l'exploitation minière et la chasse qui sont interdites. Alors, je voulais lui poser la question, quels peuvent être les résultats ou les conséquences au cas où ces éléments qu'il a cités ne sont pas respectés? C'était là ma seule question, M. Marcel, je vous remercie.
Merci, Ogi Bendelo. Vous appelez de Kikwit dans le Bandundu. Jean-Pierre, vous êtes à Bounia, en Ituri, en province orientale. Bonjour, Jean-Pierre.
Bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute, quelle est votre question?
Oui, nous venons bon, en tout cas, je dis bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi. Ma question est celle-ci. Je pense que le WWF a le mandat de protéger la nature. Est-ce que tant que les personnes là qui vivent autour des aires protégées ne sont pas, donc leur vie ne sont pas prises en compte, je pense que ça serait une mauvaise affaire. Le plus grand problème, c'est d'abord l'être humain, parce que ça fait partie aussi de la biodiversité. Si les gens qui vivent donc, dans les parages ou bien dans les alentours des aires protégées ne sont pas pris en compte, ils ne sont pas donc, financés pour faire l'agriculture, l'élevage et peut-être la pêche, par exemple, comment est-ce que vous voulez que donc, les aires protégées puissent être bien sécurisées? Comme ça, c'est ce que moi je propose, qu'on puisse promouvoir l'agriculture, l'élevage et la pêche, et comme ça, vos aires protégées seront sécurisées. Tant que ces personnes-là, leur vie, leur sociale ne seront pas prises en compte, ça serait que des théories, et puis on continuera à recevoir des fonds qui ne vont contribuer qu'à notre sous-développement. Et que même les grands pollueurs, ceux qui ont signé, les grands pollueurs des grands pollueurs n'ont jamais signé les protocoles de Kyoto. Et maintenant, quelles sont les sanctions qu'on réserve à ces personnes-là? Est-ce que ce que nous faisons, ce n'est pas un moyen de garder encore le pays sous-développé, dans le sous-développement et laisser les pays industrialisés continuer à s'industrialiser. C'est ça, donc, mon intervention.
Merci Jean-Pierre. Vous appelez de Bounia, en province orientale. On revient à vous, Monsieur Raymond Lumbuinamo. Vous avez suivi tour à tour Guy Bindele qui nous appelait des Kikuit et Jean-Pierre qui est à Bounia pour Guy. Il a souhaité que vous reveniez sur des conséquences parce que vous avez dit, selon lui, et il vous a suivi, il y a l'agriculture, il y a la chasse, l'exploitation minière qu'on ne peut pas exercer dans les aires protégées. Il a souhaité que vous reveniez sur les conséquences.
Oui, Monsieur Jean-Pierre, merci. Ce que je peux dire, c'est que les conséquences, comme je disais tout à l'heure, c'est que nous avons décidé, en tant que nation, de mettre de côté. Ça, c'est l'État, hein, l'État congolais qui a décidé de mettre 17% de la surface du pays sous régime d'air protégé. Alors, quand on a décidé ainsi, ce n'est pas parce que nous voulons être les champions de la conservation de la nature, mais parce que nous estimons que c'est bon pour le Congo d'avoir ces réserves-là. C'est vrai que nous contribuons à la conservation de la nature pour le bien de l'humanité tout entière, mais au départ, c'est pour le Congo. Il faut pas oublier que nulle part ailleurs dans le monde, où le pays dépend à plus de 80% de la forêt pour les pluies. Les pluies qui tombent sur le bassin du Congo dépendent de la forêt à plus de 80%. Et donc, si nous coupons la forêt, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de fleuve, il n'y a plus rien. C'est pour cela, d'abord, en tant que Congolais, pas en tant qu'être humain appartenant à l'humanité, mais en tant que Congolais, nous devons faire un effort de protéger les forêts. Pour nous-mêmes d'abord, le reste ensuite. Alors, les conséquences, justement, si si ces aires protégées qui sont mises de côté, à côté pour qu'elles ne soient pas coupées, sont entamées, et bien, nous perdons justement l'élément clé, la mèche qui ramène l'eau dans l'atmosphère pour qu'il pleuve encore sur le Congo. Cette mèche, nous l'aurons coupée et nous n'aurons plus. Ça, c'est la première conséquence qui est néfaste. Et pour le reste, si nous décidons de faire de l'agriculture dans une aire protégée, ce n'est plus une aire protégée. En ce moment-là, on n'a qu'à dire que ce n'est pas une aire protégée. Et ça devient un terrain comme un autre. Ça, c'est clair. Donc, je ne pense pas que ce soit vraiment difficile de comprendre ce que je voulais dire là.
Voilà, il y a également Jean-Pierre de Bounia qui a demandé à ce que vous l'avez évoqué au cours au début de cet entretien, elle a demandé qu'on puisse promouvoir l'agriculture pour éviter à ce que les gens puissent faire des activités dans ces aires protégées. Il a demandé au niveau de votre structure qu'est-ce que vous faites pour ça. Et puis il est revenu sur des fameux pollueurs et il dit que tous ces accords, est-ce que c'est pas nous excusez-moi, la RDC qui ne gagne presque rien par rapport à ces fameux protocoles de Kyoto.
Tout à fait vrai. Nous devons être conscients que si l'homme n'est pas au centre de la conservation de la nature, alors pourquoi nous conservons? Puisque nous devons conserver pour l'être humain. Et pour cela, il a complètement raison de dire que nous devons promouvoir des activités alternatives pour subvenir aux besoins des populations riveraines des aires protégées. Et il n'est pas facile de le faire à moins que nous ayons des fonds qui sont disponibles à cet effet.
Oui.
Et il faut mobiliser ces fonds-là. Et nous en sommes conscients. Aux alentours de certaines aires protégées où nous sommes présents, nous travaillons avec les populations pour que cela se fasse justement. Si nous prenons le cas du Virunga, par exemple,
oui.
nous avons mis au point un programme de reboisement avec les populations locales.
Oui.
Les populations locales ont reçu de nous du matériel pour planter des arbres. Planter ces arbres-là pour servir un point d'ancrage de paysans qui sert à la fois de fertilisant pour leur terre, mais aussi de source de bois de chauffe pour leur cuisine, et de source de braise. C'était de telle sorte que ces gens-là qui ont à leur disposition des plantes qu'ils ont eux-mêmes mises en terre, ils ne vont pas aller dans les parcs couper de bois. Et ça, c'est ce que nous essayons de faire. Autour de la réserve de Louki, par exemple, nous avons mis des fermes modèles en place qui permettent aux populations de produire sans se déplacer continuellement. Et nous avons réussi, par exemple, à mettre en place une petite coopérative de femmes qui vendent du manioc à l'Angola, et ça leur apporte environ $20,000 par semaine à ce groupe de femmes.
Et donc, c'est pas peu quand même. Hein?
Ah non, ce n'est pas colossal, mais...
C'est des actions qu'il faut en principe intensifier, hein, d'après Jean-Pierre, justement. Donc justement, il faut beaucoup de moyens par rapport à ça.
Ouais. Et si on peut dupliquer ce genre d'activités ailleurs, ce serait vraiment bon.
D'accord. Danger d'exercer des activités dans les aires protégées. Nous avons Serge qui nous appelle de Kinshasa, Ismaël Mupoyita Lubumbashi dans le Katanga. Vous voulez également intervenir par rapport à ce sujet. Appelez-nous 081-890-6094.
Chaque jour, la fréquence de la paix unit le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces à 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour de province, vivez les informations avec les reporters de Radio Capi.
Bonjour Serge, vous nous appelez de Kinshasa, on vous écoute.
Oui, merci beaucoup Monsieur Martin. Je salue Monsieur Guy Mendelo qui me suit à partir de Kipuit. J'ai une petite question et une petite observation. La question est la suivante. Je veux que l'invité me dise, il y a des exploitations agricoles ou des flores dans les plateaux de Matéké. Alors, il y a certaines familles qui ne vivent que de la fabrication de la bruse. Alors, si l'État interdisait ces pareilles familles de ne plus pratiquer la bruse, au moment où la bruse, c'est ça leur vie quotidienne, alors, quel sera le sort de ces familles-là? Alors, l'observation que je fais, dans la commune de Lancelle, il y a de la faune qui est protégée par l'État. Alors, nous voyons qu'il y a les autorités administratives et les autorités politiques qui autorisent les gens par coulisses faire la pêche et la chasse dans ces faunes-là. Alors, vous voyez que là, vraiment, il n'y a pas une meilleure protection. L'État qui peut assurer cette protection-là, c'est lui-même qui est aussi à la base de permettre les gens à faire ou à ne pas respecter cette faune-là. Je veux que l'invité vraiment m'éclaircisse pour ces problèmes-là. Merci beaucoup.
Merci Serge. Vous appelez de Kinshasa, Ismaël Mupoyi. Vous êtes à Lubumbashi dans le Katanga. Bonjour Ismaël.
Bonjour Marcel Gomboué à tous les auditeurs de Radio Capi.
Quelle est votre question?
Oui, la première question était celle de savoir, par exemple, dans des aires protégées, selon le plan économique, il peut y avoir que des sources peuvent entrer à un autre, tel que dans le parc de l'autre côté, dont on devait exploiter aussi le pétrole, soit l'essence. Et prévoit maintenant les plans économiques dans les sortes que l'une des ressources peut déranger aussi l'autre, et qui prévoit aussi l'État, juste quand il y a une exploitation, par exemple, dans le carré minute qui se trouve dans un air protégé. C'est ça ma préoccupation.
Merci Ismaël Mupoyi depuis Lubumbashi. Jean-Pierre, vous êtes à Dungu, en province orientale. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour, c'est Jean-Pierre Bagoudé qui a. Je voulais abonder dans le même sens que mon homologue de Bougne. Ici à Dungu, nous sommes très proches du parc de la Garamba et c'est une réserve très riche. Mais la tendance, chaque fois que je traverse ce parc, c'est de voir comme différence si on veut mettre la nature devant l'homme, alors que c'est l'homme qui devrait être mis devant la nature et être conscientisé. De la sorte concrète, les gens, des fois, cela m'inquiète. Est-ce qu'il faut valoriser la nature jusqu'à la défier, jusqu'à ce niveau? Moi, j'ai plaidé à ce qu'on puisse créer un peu des activités génératrices de revenus pour les populations autochtones. Donc, celles qui vivent dans le parc-là, vous verrez, ce sont des gens déminés, vivent grâce à la cueillette, mais récemment, vers Sambia, j'ai vu une initiative de la population qui voulait construire une école, qui voulait abattre certains arbres, mais ça a été réprimandé d'une manière agressive. Je me demande, est-ce que c'est l'homme qui est devant la nature ou bien c'est la nature qui est devant l'homme? En tout cas, j'ai fini en disant que l'État congolais doit prendre en charge, je ne suis pas en charge, créer des activités, des revenus, un peu de pharmacie, quoi, pour les populations autochtones, afin de détourner les regards de ces aires protégées et que la population se concentre sur ces activités et puisse bien vivre.
Merci Jean-Pierre, depuis Dungu en province orientale. On revient à vous, à Raymond Lumenamo, dont vous avez suivi. Les préoccupations sont presque les mêmes pour tous ces auditeurs qui nous ont appelés de Kinshasa, de Lubumbashi et de Dungu, qui parlent du rôle à jouer par l'État congolais. Vous avez suivi, quelqu'un a cité par exemple au niveau de la commune d'un Célé où il y a des aires protégées, mais des gens qui sont autorisés à faire de la chasse en cachette ou même de la pêche, ce qui n'est pas bon. Mais il y a également Serge qui est revenu. Je sais que vous étiez déjà en train de développer. Comment, par exemple, au niveau du plateau des Batéké, des personnes qui vivent de la braise et puis on leur dit de ne pas couper du bois pour vivre. Pour eux, ça n'a pas de sens parce qu'ils doivent vivre. Et pourtant, ils doivent également protéger les aires protégées. Il y a également Ismaël, plutôt Jean-Pierre, Jean-Pierre, oui, qui a parlé de parc de la Garamba. Il a comme l'impression qu'elle est également, le parc est menacé. Qu'est-ce que vous dites à tous ces auditeurs, Raymond Lumbuenamo?
Si nous prenons l'auditeur qui a appelé de Kinshasa et qui s'insurge contre ce qui se passe. Je crois qu'il parle de la réserve de Bombolumene d'abord, où la pêche est autorisée, selon lui, par l'État. Et je n'ai aucune information là-dessus, mais si cela est le cas, je ne pense pas que ce soit des autorisations officielles qui sont données ouvertement à des gens pour aller chasser dans les aires protégées. À une certaine époque, la réserve de Bombolumene était une réserve de chasse. Et donc, de temps en temps, la chasse y était autorisée. Pour l'instant, je ne pense pas que ce soit une réserve de chasse. Et par conséquent, ces genres d'autorisations ne peuvent pas être données à qui que ce soit. C'est donc, de façon, je suis tout à fait étonné d'apprendre qu'il y ait des autorisations en ce sens-là. Pourquoi est-ce qu'on interdirait aux gens d'aller chercher du bois et faire de la braise? Mais justement, on ne veut pas qu'une fois que vous avez déboisé tout le plateau de Batéké, et les sables du plateau de Batéké se retrouvent dans le fleuve, se retrouvent à Inga, et puis ce sont les étiages, mais aussi le remplissage des canaux d'amener vers les turbines. Et donc nous voulons que ce soit de façon ordonnée que ça se fasse. C'est pourquoi, sur le plateau de Batéké, si vous savez, il y a 8000 hectares d'acacias qui ont été plantés par dans l'Union européenne et l'État, mais il y a aussi IBI, une initiative d'un Congolais qui est en train de planter des acacias là-dessus, qui lui aussi peut...
Donc c'est des projets qu'il faut vraiment encourager, intensifier.
Oui. Le Kadim
est là. Vous parlez de Mampou.
Le Kadim à Mbankana, il est là. Et tous ces éléments-là, justement, font de telle sorte qu'on n'aille pas chercher le bois de la nature, mais des bois qui sont plantés. Alors, pour revenir à notre collègue de Dungu, je comprends très bien qu'ils disent que l'on s'occupe de l'homme. Justement, l'homme doit être au centre de notre action. Si l'homme n'est pas au centre de notre action, ça ne sert à rien qu'on fasse ce que nous faisons. Et nous devons trouver des alternatives. Quand on dit on conserve cette partie de notre territoire, il faut qu'en retour, on ait quelque chose qui aille aux populations, qui leur dise voilà comment il faut faire pour que vous parveniez à nouer les deux bouts, à trouver des ressources pour votre survie. Ça, c'est tout à fait normal. Et là où nous sommes, nous essayons de faire de notre mieux pour que cela se passe ainsi.
Voilà. Vous essayez de faire de votre mieux pour que cela se passe ainsi. On va se résumer. Donc, ce qui est important de retenir est que les aires protégées, il faut absolument les protéger. Vous avez parlé des 17% de la surface du pays qui doit être sous régime des aires protégées.
Oui.
Et il faut qu'il y ait une espèce de collaboration étroite entre les populations concernées,
oui,
et également l'État congolais, hein, de manière à ce qu'on fasse comprendre à la population, c'est vrai,
oui,
vous avez besoin du bois, mais voici ce qu'il faut pour protéger également cette nature. Et au niveau du WWF, qui est le Fonds mondial pour la nature, vous faites des efforts intenses. Vous avez cité quelques exemples, hein, avec sur ce qui concerne l'utilisation du bois, comment vous avez essayé d'orienter, d'encadrer, hein, les,
oui,
personnes qui étaient dans cela. Et voilà. Un dernier mot de votre part, Monsieur Raymond Lemoynamo.
Comme je disais, oui. Oui, nous sommes membres d'une communauté internationale. Nous sommes des membres de l'humanité. Et donc, nous ne pouvons pas nous dérober à notre tâche, nous qui avons des ressources forestières, d'aider l'humanité à les conserver. Mais il faut surtout retenir que la forêt, lorsqu'elle disparaît, c'est nous d'abord qui en souffrons, nous les Congolais. Et donc, pour cela, nous devons faire en sorte que la forêt reste le plus longtemps possible, qu'elle serve à plus de générations. Voilà.
Merci Raymond Lumbinamo. Nous rappelons que vous êtes directeur national de WWF, que le Fonds mondial pour la nature. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour parler du danger d'exercer des activités dans les aires protégées. Merci.
C'est moi qui vous remercie.
Au revoir.